J'ai décidé qu'à deux. J'ai hésité. J'ai réfléchi pendant un an, en gros. Ce qui rendait Arte fou, mais à la limite, il pouvait le proposer à quelqu'un d'autre, si moi, je ne voulais pas. Et donc, en fin de compte, c'est vrai que c'était un peu la main du commandeur, pour moi. Et donc, c'est un film en trois temps, comme trois temps musicaux. Le temps que vous voyez, c'est le temps de l'eau, c'est le premier. Donc, ce sont les prémices. Et il y a un certain nombre de paris et de partis que nous avons pris qui sont assez radicaux. Le premier, c'est que nous, c'était quand même la fin du 20e, quoi. Et on a largement basculé sur le 21e. Et nous ne voulions pas, il y avait quand même presque 50 ans, 60 ans que cette histoire avait été, on peut dire, close, quoi. Puis c'était ouvert dans les années 80. Et il y avait des gens que je connaissais ou que j'aurais pu connaître qui étaient les survivants et qui en parlaient. Et effectivement, nous avons pris la position un peu raide de... Quand vous racontez très, très... C'est un peu comme les rêves. Quand vous racontez une histoire très, très longtemps, pendant de longues années, l'histoire que vous racontez devient plus forte que ceux dont vous parlez. Et donc, nous avons décidé de ne pas aller dans les grandes villes où il y avait les gens totalement respectables qui pouvaient en parler. Et nous avons pris le parti de partir des Solovki, qui était le temps de l'eau, là où effectivement les choses coulent encore. Puis le temps de la terre, qui était le temps du travail et qui était le centre, si vous voulez, de la... Enfin, au milieu du trajet, c'était la Russie centrale. Et le troisième temps, qui est le temps de la pierre, qui était la Kolyma. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier temps. Alors, donc, nous n'avons pas... nous avons, d'une manière très, très consciente, en sachant d'abord que sur les Solovki, il y avait des textes, et il y avait... peu de personnes qui l'avaient vécu. Donc il y avait des opinions, et là aussi, alors là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que je ne suis pas historienne. Je tourne des films, je traduis des livres, mais je ne suis pas historienne. Et donc, m'affronter à cette aventure était une aventure totalement démesurée. Et donc là aussi, j'ai pris le parti. Donc j'ai vraiment cherché des gens de faire une sorte de cercle d'études ou de réflexion. Les gens de cette époque, ils étaient, donc c'était les années, je ne sais même plus exactement quelle année c'était, enfin c'était autour de la fin du 20e. Et c'était des gens qui avaient des certitudes. Or, pour une chose aussi vaste, avec un projet aussi profond dans une formule politique qui était à ce point difficile de ne pas partir, ce que je dis toujours, quoi, on s'obstine à raconter l'histoire en croyant que le loup devait manger la grand-mère. Or, le loup aurait pu ne pas rencontrer le petit chaperon rouge. Il y a toujours des possibilités de bifurcation. Et ça, quand on s'attaque à ce genre de choses, c'est très, très important de rester vraiment dans ce qui était pensable et pas de partir de ce qui est là. Il y avait un film, un texte sur les Solovki que mon ami du Globe avait présenté et qui commençait en disant « Les Solovki ont inventé le goulag ». C'est une phrase qui ne veut rien dire. D'abord, les Solovki, ce n'est pas un homme, c'est un ancien monastère, c'est un lieu où il y a plein d'oiseaux. Sans doute un des endroits où il y a le plus d'oiseaux parce qu'ils viennent migrer. Et je ne vais pas vous en parler longtemps, mais par rapport au récit, donc j'ai cherché ici, puis j'ai cherché en Russie aussi. Et il y a un homme qui m'a immensément aidé, c'est celui qui tenait le mémorial, ceux qui s'occupent de la mémoire, à Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Lui aurait pu, mais il était infilmable. Et chaque fois qu'il se regardait, il hurlait de rire. Parce que, voilà, il y a des gens qu'il ne faut pas filmer, quoi. Il faut les écouter. Et donc, ma réflexion que je me suis permis de mettre comme commentaire est très, très fortement nourrie d'immenses discussions qu'on a eues tous les deux. Et il est mort sur un escalator de Paris. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Voilà, donc j'aurais beaucoup aimé porter le projet jusqu'au bout avec lui. Ceux que j'ai rencontrés dans les lieux que nous avons repérés, parce que c'était quand même un travail qui a duré presque 3 ans, 1 an de réflexion, 1 an de repérage, 1 an de tournage, 1 an de montage. Donc ça fait 4 ans en gros, quoi. Et donc, dans mon année de repérage, j'ai vraiment cherché aussi des historiens russes qui pouvaient me parler. Or, il se trouve que les plus intéressants que j'ai trouvés, ce n'étaient pas les gens qui avaient déjà beaucoup raconté, c'était des gens qui étaient sur les lieux, qui ne sont pas les lieux de Moscou, et qui étaient des gens qui étaient jeunes et qui hésitaient entre que faire de leur vie, et souvent ils se posaient la question de devenir soit géologue, soit historien. Ce qui est une très très belle question, parce qu'en gros, l'approche de la réalité était la même. Et ceux qui avaient décidé de devenir historien, c'était en général, avec lesquels j'ai vraiment discuté, c'était des gens qui étaient souvent nés dans les camps. Et donc, quand ils ont commencé à vouloir devenir historien et pas géologue, même s'ils étaient souvent fils de géologues, ils étaient en train de mesurer l'étendue de leur camp à eux. Mais ils n'avaient pas réfléchi, ils n'avaient pas encore pris la mesure de cet immense pays qu'a été le Goulag, qui est une administration. Ce n'est pas une tôle, ce n'est pas une prison, c'est une administration. Une administration, c'est une administration, voilà. Glavne, Google, Upravlenie, je ne sais plus quoi, Lagerie. Voilà. Donc, c'est comme, je ne sais pas, CFDT. Hein. Donc, ce n'est pas un personnage. C'est pas un lieu. Voilà. Et donc, après les premiers tournages, moi, j'ai effectivement, pour pouvoir avancer, il fallait que j'écrive. Quand on commençait à avoir accumulé le matériel. Et donc, j'ai commencé à écrire, moi, seule. Et on a été voir les gens d'Arte, où j'avais mis quand même quelques réflexions d'historiens, et c'est eux qui m'ont dit « tu y vas », ce qui est une folie complète. Et en même temps, une fois que la folie, je l'ai faite, je me suis rendu compte que avoir un texte sur un projet aussi énorme, aussi contesté, aussi déchiré par des réflexions qui... Enfin, voilà. Que le fait que ce soit une personne qui dise « voilà », parce que vous voyez aussi, on a essayé, là ce que vous voyez, en plus vous avez très très peu de témoignages, parce qu'il y en avait très peu à l'époque, c'est sans doute le plus abstrait, celui que vous avez choisi. Le deuxième, il est déjà dans le début du travail, et puis le troisième, c'est la Colima et c'est Chalamov. Et d'ailleurs, je dis entre parenthèses que j'ai été... Oui, vous êtes surprise ? Ah, excusez-moi. La Colima, c'est le lieu qui est le... Si vous prenez les Solovki, hein, les Solovki, la mer Blanche. Vous sortez, vous tournez à droite, vous trouvez quelques îles, dont l'un était... Bon, j'ai failli le prendre comme personnage. Hein, puis après, vous continuez, et vous arrivez en Amérique, si vous voulez. Hein. Eh bien, si vous n'avez pas envie d'aller en Amérique et vous voulez retourner en Russie, vous descendez. Et là, il y a un immense continent qui s'appelle la Colima, parce qu'il y a une rivière qui s'appelle la Colima. Et donc, c'est un immense, qui est un lieu très rude. Au Solovki, il y a sans doute la plus grande quantité d'oiseaux différents. À la Colima, il n'y a plus que des corbeaux, qu'on appelle les rossignols de la Colima. Voilà, c'est en gros, c'est le trajet. C'est un trajet historique qui s'est fait petit à petit. Et Voilà, donc le fait que le texte que vous allez entendre, j'en prends la responsabilité. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement, n'étant pas historienne, ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et ça, je me suis rendu compte que c'est une sacrée liberté. Parce que s'il y avait eu un panthéon d'historiens qui vous disaient c'est comme ça, ben vous disiez c'est comme ça. Et ben ça aurait pu ne pas être comme ça. Et peut-être que c'est pas ça qu'il fallait dire. Et ça, c'est effectivement la réflexion que chacun peut faire parce qu'il y a une fille comme ça, avec deux pieds et une tête, qui a essayé d'écrire ce que... Et là aussi, j'ai essayé de pas de me faire écraser par les témoignages, parce que ça, c'est un autre film, mais d'essayer de réfléchir comment ce mécanisme a été possible et comment ça s'est mis en place, l'aventure. Voilà. Donc, c'est très humble ce que je vous dis, mais voilà, il fallait le dire parce que c'est pas un commentaire de documentaliste. C'est vraiment 3 ans de travail, ce qui est très peu, mais c'est quand même 3 ou 4 ans, quoi. C'est quand même de ma vie. Et donc, on l'a fait à deux. D'abord parce que j'avais beaucoup tourné avec Iosif Pasternak, qui m'avait aidé en Ukraine. Puis moi, je l'avais aidé aussi à faire des films. C'est peut-être les premiers films pas complètement terrifiants qui ont été tournés au début quand on découvrait la Russie, qui étaient scandaleux, il n'y avait que de la mafia. Et effectivement, lui venait d'Ukraine, moi c'était pas ma tasse de thé du tout. Et donc effectivement, les premiers films qu'on a fait, le premier c'était Efremov, qui est une toute petite ville à 100 km de Moscou, où il y a un très grand auteur qui est allé là-bas, qui s'ennuyait, il ne savait pas où aller, c'était 17 ou 16, oui, c'était les années 16, et puis il était journaliste, on lui a dit va donc voir en province ce qui se passe. Il s'est retrouvé en février 17, là, et il a écrit un texte merveilleux. Et donc on a pris ça, voilà. Donc ça n'avait rien à voir ni avec Moscou, ni avec les grandes capitales. La Russie est immense quand même. Donc à la limite, on se dit il faut mieux prendre un petit bout qu'essayer de prendre tout. Parce que de toute façon, prendre tout, vous ne pouvez pas. Ou alors, il faut marcher. Il faut savoir que quand un paysan voulait porter la supplique au tsar, il partait de son village, il marchait 2 ans. Il arrivait jusqu'à la capitale. Il se jetait sous les sabots des chevaux pour que là où le tsar passait, ça s'arrête. Donc ça s'arrêtait. Il tendait la supplique au tsar, quelqu'un la prenait. Il remarchait pendant 2 ans. Il revenait au village et il disait « Le tsar a lu notre supplique ». C'est ça la Russie aussi. C'est-à-dire que c'est immense. C'est vraiment des grands, grands espaces. Et donc, c'est une manière de réfléchir qui est différente aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous en avez le droit absolu. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène Châtelain. Et si vous en êtes d'accord, nous pourrons peut-être prolonger ce débat après le documentaire, si vous avez des questions.
Après les films, en disant qu'est-ce que vous pensez du film, c'est en général une catastrophe. Mais ça peut être une catastrophe fraternelle, donc voilà, quoi, c'est vous qui...
Voilà, bah nous verrons, si. Merci. Alors, mais si vous avez quelques questions à poser à Hélène Châtelain... peut-être pour commencer, c'est vrai qu'on oublie souvent de parler de la forme. Moi, j'ai été très surprise, par exemple, par le fait qu'il n'y ait pas de... Enfin, vous avez parlé tout à l'heure des sous-titres pour lesquels vous êtes battu, mais apparemment, vous n'avez pas obtenu. D'accord. Ouais. Mais il y a quand même un autre élément, c'est que, par exemple, les personnes qui parlent ne sont jamais nommées. Enfin, on ne sait pas qui parle. Par exemple, au départ, il y a un historien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer qui est cet homme qu'on voit dans la forêt, qui revient longuement sur...
On a effectivement beaucoup hésité. Enfin, on a hésité pour savoir s'il fallait mettre le nom des gens.
Non, c'est bon. Vous pouvez...
Ah bon, excusez-moi. Oui, la question des... On entend, là ? Hein ? C'est vous qui entendez, oui, ça va. La question des noms, est-ce qu'il fallait nommer ? On se l'est posé, effectivement. Puis on s'est dit, qu'est-ce que ça apporte ? Nous, ces gens-là, on les a découverts comme ça. On est arrivé, il était assis. On a commencé à lui parler, il nous a dit ce qu'il nous a dit. Après, effectivement, on peut vous dire que c'était quelqu'un qui était passionné de japonais. qui est arrivé sur les Solovki par hasard et qui ne les a plus quittés. Et donc, il s'est mis à travailler sur les archives. C'est sans doute une des pensées les plus pertinentes qu'on a entendues. Commencer en disant que Edgar Poe ne se souvenait pas exactement du sens du poème qu'il avait écrit, c'est formidable. C'est des cadeaux du ciel, ça. Alors, dire qu'il s'appelait Monsieur Machin Machin, on s'est dit, voilà, pourquoi, quoi. C'est vrai que... Après, bon, en plus, il est mort stupidement 2 ans après parce qu'il avait arrêté de boire et qu'à 1er janvier, il s'est un peu saoulé, le cœur a cédé. Voilà. C'est comme ça la vie, quoi. Ça ne devrait pas être comme ça. Et qu'est-ce que ça aurait amené qu'on vous dise que c'est Monsieur Machin qui est. On n'aurait pas pu mettre qu'il était amoureux du japonais, ça c'était bien. Mais pour ça, il fallait raconter pourquoi il était venu chercher le japonais au Solovki. Enfin, ça devient à ce moment-là une histoire trop compliquée, quoi. Donc, on a pris le parti de... Voilà, c'est des gens qu'on a croisés qui nous ont dit ça. Et puis après, on ne les a plus revus. Voilà, donc on a peut-être eu tort. C'est vrai qu'il y a eu des génériques où on avait mis le nom des gens. Et puis, comme eux, ils ont mis les génériques techniques. Qu'est-ce que vous voulez faire ? La télévision, c'est des carnivores, hein ? Donc il faut, voilà. Et vous n'êtes pas prévenu du tout quand ça se passe comme ça. Donc voilà, peut-être on a eu tort, mais effectivement, qu'est-ce que ça vous aurait amené de plus que ce qu'il dit, de savoir qu'il était amoureux des Japonais, qu'il est arrivé, qu'il est resté. Tout ce qu'on sait, c'est que il a immensément réfléchi au lieu dans lequel il était. Ça c'est clair. Ça c'est vraiment clair. Quand il vous parle de l'orthodoxie, quand il vous parle du côté utopique. Que l'orthodoxie, c'est pas pareil que le catholicisme, ou que le, je sais plus exactement comment il dit. Bon, ça veut dire que derrière, il y a une passion des bouquins. C'est évident. Honnêtement, qu'est-ce que ça aurait changé ?
Alors, on va peut-être passer la parole à la salle.
Ah oui, tout à fait.
Si vous avez des questions sur le, ou des réactions sur le documentaire qui est très beau, le texte est très beau. Attendez, je vous passe le micro.
Oui, moi j'ai trouvé passionnant de voir votre film parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et je ne savais rien de ce, disons, est-ce que j'ose dire, est-ce que je me trompe en disant pré-goulag ? Parce que c'est présenté un instant comme ce qui a précédé le véritable goulag, c'est-à-dire l'organisation du travail forcé, etc. Voilà, ça oui. Et disons que si je veux faire le tour, par exemple, cette journée a été consacrée au sujet et je suis venue pour voir le film et j'en suis enchantée, je suis ravie de l'avoir vu, il m'a appris beaucoup, je répète. Mais si je veux vraiment en savoir plus, est-ce que vous me conseillez l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, que je n'ai pas lu, ce qui est quand même un peu dommage. Vous me conseillez Varlam Chalamov.
Comme prisonnier politique. Non, il a été considéré comme droit commun. Et c'est, si vous voulez, le deuxième stade de l'emprisonnement. C'est au moment où... Et le stade suivant, c'était effectivement la mise au travail. Parce qu'il y avait les plans quinquennaux qui venaient de se mettre en place et que donc il fallait exploiter la terre, quel que soit le prix qu'il faille payer. Et comme effectivement c'était. Et c'est la première fois, alors plus tard, hein, où il y a eu effectivement un accord conventionnel entre l'administration du Goulag, qui était une administration pénitentiaire, et le ministère du Travail. Ou en disant qu'eux, ils allaient fournir la main-d'œuvre, donc qui n'était pas payée ou presque pas, qui était, et eux organisaient tout le reste. Si vous voulez, c'est comme si, effectivement, le ministère de la Justice faisait un accord avec. Voilà quoi. C'était un accord extraordinairement fertile parce qu'on ne comptait pas les. comptait pas les morts au travail. Il y en avait, voilà. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le travail qui se faisait. Et puis, et donc effectivement, là, il y a eu un véritable contrat de travail et qui a ouvert sur l'organisation du travail telle qu'elle était, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Voilà. Et puis après, le troisième temps, le temps de la pierre, donc ça, c'est le temps de la terre, où effectivement, on a commencé à creuser. Et le temps de la pierre, c'est le troisième temps, qui était la Colima, donc qui est sur cette région très, très froide, très dure. Et Chalamov, donc, a été... Dans les premiers camps de travail, où c'est complètement intéressant ce qu'il raconte, c'était quelqu'un qui était très proche des, quand il était étudiant, des SR, des socialistes révolutionnaires, donc des paysans. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais retourné la veste qu'il n'avait plus d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est. Et après, il a été à la Colima, il est resté 17 ans dans le camp. Le camp qui était un des plus raides parce que c'est très froid, quoi. C'est vraiment très froid. Et que, en plus, quand c'est tellement éloigné, quand les arrivées, parce qu'on passait entre le Japon et là pour monter au Solovki, à la Colima, on leur donnait des bottes, on leur donnait des choses. Sauf que dès qu'ils sortaient de l'endroit, comme il y avait énormément de droits communs et que tout ça a été mélangé, il ressortait sans bottes et sans rien. Et effectivement, c'était en gros les rapports extraordinairement violents qu'il y avait à l'intérieur des baraques, c'était peut-être encore plus dangereux que les rapports avec l'administration qui étaient, en gros, ça dépendait des gens, quoi. Ça dépendait, il y en avait qui étaient terrifiants, il y en avait qui étaient un peu moins terrifiants. Être gardien de camp... Dans le deuxième temps, le temps de la terre, on a un personnage qui est merveilleux, qui lui était gardien, mais il voulait trouver du travail. Mais là aussi, on ne peut pas tout raconter, donc il faut se dire que comme si dans un train vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux de quelqu'un, et après vous l'inventez, quoi, puisque vous ne le reverrez plus jamais. Ces personnages, c'est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir à la table et qui racontent leur vie. Sans ça, on racontait pas ça. Et effectivement, lui, il avait eu un problème au travail là-bas dans la ville, et il a retrouvé une petite affiche en disant qu'on demandait des gens qui travaillaient le bois, je crois, ou des bûcherons, des choses comme ça. Donc ils se sont inscrits à deux, et quand ils sont arrivés, on leur a donné un fusil et on les a mis à garder. Et ils ont mis du temps à comprendre, et puis ils ont dit, attends, on va rester 6 semaines, 6 mois, puis on se taille, on ne va pas rester là-dedans. Et puis bon, ce n'est pas si simple de se tailler, et puis voilà. Et donc lui était gardien, et donc il a vu aussi, et c'est passionnant, parce que c'est vraiment un très brave type. Et je l'ai retrouvé parce que j'étais au mémorial de cet endroit-là, et qui avait sur l'armoire un type avec une brouette sculptée en bois et un gardien. Alors pour le mémorial, c'était bizarre quand même. On dit qui c'est qui a fait ça ? Il dit c'est Grégory machin et qui était gardien. Donc on a couru le voir et voilà, on a trouvé un homme avec un destin qui a sûrement pas tué grand monde, je crois qu'il a dû même tuer personne. Mais bon, voilà. Alors la Colima, c'est... Et donc, on retrouve Chalamov à la Colima. Et les récits qu'il a écrits, qui s'appellent les récits de la Colima, hein, c'est autre chose que Solzhenitsyn. Parce que, d'abord... Il avait une espèce de raideur qui était impossible de romantiser ou d'en faire un roman de cette histoire. Donc il a fait des récits courts qu'il a écrits en sortant, donc après 17 ans. Et il s'est mis tout seul et il s'est mis d'abord à hurler son texte et puis il l'a écrit. C'est sans doute un des plus grands écrivains. Et j'ai été stupéfaite quand il y avait la semaine ou le mois, je ne sais pas quoi, franco-russe à France Culture. Ils en ont parlé pendant une semaine. On ne parlait que de ce génocide, pour lequel j'ai le plus grand respect, hein, mais c'est autre chose. Et pas un mot sur Chalamov, qui est vraiment une espèce de je ne sais pas comment vous dire, parce qu'en même temps, il y a une immense générosité, quoi. Mais si on la montre, on s'affaiblit, et si on s'affaiblit, on ne tient plus. Donc c'est quelqu'un d'absolument... Et un très, très bel écrivain. Aussi, ce qui ne garde rien. Donc les récits de la Colima, effectivement, c'est... Alors vous pouvez... Il y a plein de mémoires, il y a plein de récits qui sont passionnants. Hein. Mais Chalamov, prenez-le. Alors il a... En plus, quand il est rentré, sa femme l'attendait. Ils sont allés dans la maison et il avait une fille qu'il ne connaissait pas. Et il a parlé pendant toute la nuit. Et le lendemain, la fille a dit à la mère, écoute, c'est soit l'ennemi du peuple, soit moi. Et donc il est parti. Parce que les gens qui rentrent des camps, comme les gens qui rentraient de la résistance, ou des camps allemands, c'est des gens en trop. On ne sait pas où les mettre. On ne sait pas quoi faire avec le poids qu'ils ont. Donc moi qui se montre, plus mieux que ça vaut, en gros. C'est des choses qui sont sur lesquelles on peut difficilement faire des romans. Et les romans, c'est le mot français, c'est quand il y avait les grands mafieux qui étaient dans les camps et il y avait les intellectuels qui leur racontaient des histoires. Et on appelle ça les romans avec un grand O, très haut, comme ça. Voilà, non, c'est des histoires emblématiques. C'est vraiment des histoires emblématiques. Et en plus, c'est vrai que la Russie étant ce qu'elle est, elle donne, comme ça, elle peut vous donner la terre, elle peut vous donner la pierre, elle peut vous donner l'eau. Et puis, tu entends des oiseaux qui passent.
Alors, j'en profite pour saluer Alain Blum et Sylvain Linarté. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Et passez un très bon séjour à Paris. On se revoit demain pour un autre témoignage. Alain Blum va vous traduire. Merci beaucoup. Je ne voulais pas interrompre la séance, mais si vous avez d'autres questions, on peut les poser. Sinon, je... Ouais. Merci beaucoup, Hélène Châtelain, pour la présentation de ce documentaire et les commentaires. Oui. Oui, vous pouvez les trouver en DVD très facilement. Et surtout, vraiment, je vous invite à voir les trois documentaires qui sont très bien, très complémentaires. Et c'est vrai qu'on reste, on a envie d'en savoir plus après celui-ci. On peut pas faire tout. Merci beaucoup.
Tous les projets les plus intéressants arrivaient sur son bureau, donc il y en avait 80, il en choisissait 10, donc il y a 70 personnes qui trouvaient que c'était un salaud. Mais qu'il ait pris la responsabilité de ça en nous donnant carte blanche. Il nous a jamais... S'il nous a demandé, qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Oui, on n'aimait pas le titre. Nous, on voulait l'appeler Carré blanc sur fond blanc. Alors, il a dit, écoutez, Châtelain, bon, ça va, quoi. Ça suffit maintenant, on appelle ça goulag, point, c'est tout. Sans ça. Voilà, donc il avait sans doute raison, voilà. Mais sans ça, il nous a absolument. C'est lui qui nous a dit, prenez pas des historiens là-dedans. Allez-y, quoi. Et donc, il a pris le risque, hein, puisque, voilà, qu'on a quand même travaillé 3 ans. C'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est. C'est exceptionnel. Hein. Moi, je ne sais pas qui c'est actuellement dans la télévision actuelle, mais même ça fait hurler de rire tout le monde hein, de penser qu'on peut faire 3 heures comme ça en travaillant pendant aussi longtemps. Enfin, on n'était pas payé, on avait un contrat, donc on pouvait. Si on avait mis 10 ans, on n'aurait pas eu un centime de plus. Hein. Ils ne pensaient pas qu'on allait travailler tellement longtemps, mais c'est comme ça la vie, quoi. Non, c'est. Et je crois qu'il était très content. Il était content parce qu'en plus, c'était un tel pied de nez aussi. Il est parti après, quoi. C'était, enfin, pas tout de suite après, quand même. Il est resté un peu. Enfin, voilà, quoi. C'est une très très belle histoire, une belle aventure. Et pour nous, ça a été quelque chose de très très important, avec la bataille sur la musique. Parce que Chalamov, par exemple, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'on musicalise ce qu'il dit. Il y a un type, un jeune étudiant, qui un jour est arrivé chez lui en disant « J'ai mis en musique un de vos textes. » Il s'est retrouvé en bas de l'escalier. Il l'a jeté comme un... Non, c'était pas romantique. Mais c'est extraordinairement généreux. C'est ça qui est formidable. C'est que il avait pris effectivement des positions qui étaient les siennes. Et à un moment, il était en tôle avec un SR aussi qui lui dit « Toi, tu as vraiment le droit d'être en prison. » Et quand la première fois il est en prison, il avait l'impression de vivre tous les récits qu'il avait lus. Et puis la colima, c'était autre chose, là, vraiment. Là, il fallait tenir. Voilà. Et c'était des camps très, très durs. Et un jour, il s'est enfui d'un camp, qui était un camp subalterne, pour rentrer dans le camp mère, parce que le type était un sadique absolu. Donc lui, là, il s'est taillé, mais il s'est taillé pour aller où ? La Colima, vous regardez la carte, où voulez-vous aller ? Donc il est rentré dans son camp mère, où en gros, il était moins... Il connaissait mieux, quoi. C'est des drôles d'apprentissage. Merci, en tout cas. Hein.
Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.